Merci Tiffaine, les auditeurs vous retrouvent demain et moi je vous dis à lundi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce quatrième et dernier épisode d'une série consacrée au mythique Homère. À Homère et à son œuvre, bien entendu, car sur Homère lui-même, nous savons peu de choses. On n'est d'ailleurs pas certain qu'il y ait eu un homme portant le nom d'Homère. Cela n'a pas empêché l'helléniste Pierre Judet de Lacombe d'écrire sur lui une biographie qui est une enquête sur la figure légendaire de ce poète. Il nous en a parlé lundi au cours d'une émission à réécouter en podcast. Mardi, avec Philippe Brunet, nous avons parlé de ce poème de la guerre, de la colère et de la mort qu'est l'Iliade. Il nous a également expliqué pourquoi Homère, selon lui, ne pouvait se comprendre sans ressentir son rythme et sans écouter son chant. Enfin, mercredi, nous nous sommes attardés sur cet autre grand poème fondateur de la littérature occidentale qu'est l'Odyssée, en compagnie cette fois de Paul Demont. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de la présence d'Ulysse, ce grand personnage d'Homère dans les œuvres de la littérature qui lui sont postérieures, nous sommes avec Corinne Joanneau, professeure de littérature grecque et spécialiste de la fiction en Grèce antique et médiévale. Elle a publié en 2013 un essai intitulé « Ulysse, Odyssée d'un personnage d'Homère à Joyce » aux éditions Ellipse. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Celui-là, c'est le fils de Laërte, l'industrieux Ulysse. Il a grandi dans le pays d'Ithaque et sur son sol rocheux. Il est expert en ruses de tout genre autant qu'en subtiles pensées. Lors, le sage Anténor ajoute « Un jour déjà, il est venu ici, le divin Ulysse. Et Ménélas, chéri d'Arès, l'accompagnait. C'est moi qui les hébergeais et qui leur fis accueil en ma maison. » Je pus juger de leur stature comme de leur subtile pensée. Bientôt, ils pénétraient dans l'assemblée troyenne. Tant qu'ils étaient debout, Ménélas dépassait l'autre de toutes ses larges épaules. Quand il s'asseyait, en revanche, Ulysse était plus imposant. Mais l'heure venue d'ourdir pour le public les idées et les mots, Ménélas sans doute parlait aisément, peu de paroles, mais sonnant bien. Il n'était ni prolixe, certes, ni maladroit. Il était moins âgé aussi. Mais quand l'industrieux Ulysse, à son tour, se dressait, il restait là, debout, sans lever les yeux, qu'il gardait fixés à terre. Il n'agitait le sceptre en avant ni en arrière. Il le tenait immobile et semblait lui-même ne savoir que dire. Tu aurais cru voir un homme qui boude ou, tout bonnement, a perdu l'esprit. Mais à peine avait-il laissé sa grande voix sortir de sa poitrine, avec des mots tombant pareils aux flocons de neige en hiver, aucun mortel alors ne pouvait plus lutter avec Ulysse. Et nous songions moins désormais à admirer sa beauté.
Un extrait de l'Iliade au chant 3, lu ici par Georges Clès avec ce portrait du personnage d'Ulysse. Bonjour Corinne Joanneau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qui caractérise ce personnage d'Ulysse chez Homère? Qu'est-ce qui le définit finalement?
Alors, dans l'extrait qui vient d'être lu, qui est particulièrement intéressant, vous avez pu constater que l'accent était mis sur les capacités rhétoriques, l'éloquence du personnage, qu'on ne devine pas d'ailleurs au premier abord. Alors, le personnage qui parle ici, c'est le Troyen Anténor, puisque la scène se passe, c'est l'épisode qui est intitulé La théicoscopie, la scène se passe donc sur les remparts de Troie, et donc les Troyens regarde le camp grec en compagnie d'Hélène. Mmh. Hélène leur présente les différents personnages principaux de l'armée grecque et elle présente donc Ulysse en insistant déjà, elle, sur la métisse, la ruse du personnage. Et c'est à ce moment-là que le vieil Anténor intervient pour raconter un souvenir, le souvenir d'une ambassade qui a eu lieu donc avant le déclenchement de la guerre de Troie, et une ambassade donc à laquelle ont participé à la fois Ménélas et Ulysse. Et donc vous avez pu constater que dans le passage en question, il y avait une comparaison des deux prestations rhétoriques de Ménélas et d'Ulysse, et évidemment à la faveur d'Ulysse. Alors, c'est un passage qui a eu vraiment une célébrité extrême dès l'Antiquité, parce que, en fait, il a servi à la transformation d'Ulysse en parangon de rhéteur. Et donc, on le retrouve dans tous les manuels de rhétorique où Ulysse est vraiment cité en exemple à suivre.
Alors, pour en savoir un peu plus sur Ulysse en tant que personnage, on peut dire peut-être que sa naissance est relativement douteuse, puisqu'il serait né d'un père qui serait un voleur, Sisyphe.
Oui, effectivement. Enfin, ça, c'est la légende noire, pas celle, évidemment, qu'on trouve dans l'Odyssée, celle qu'on va trouver chez les Tragiques.
Aussi, justement, oui. De ce personnage qui se déploie au-delà même de l'Odyssée.
Oui, bien sûr, puisque en fait, la figure d'Ulysse, bon, évidemment, elle est importante et dans l'Iliade et surtout dans l'Odyssée, dont il est le héros principal, mais c'est une figure commère, enfin, bon, entre guillemets.
Toujours entre guillemets.
Oui, bon, c'est pas qui c'est, n'a pas inventé. C'était un personnage qui faisait partie du fond mythique. Et donc, il y a d'autres traditions légendaires qui circulaient à son propos. Alors, malheureusement pour nous, ce sont des traditions dont nous n'avons conservé que des bribes, c'est ce qu'on appelle le cycle épique. Et donc il y avait toute une série d'autres épisodes qui donc ne sont pas présents chez Homère, mais qui ont été exploités ensuite, en particulier par les Tragiques.
Oui, alors on va en parler, oui, oui. Justement. Dire aussi que Ulysse, par rapport à Achille, qu'on a tendance à opposer, on a tendance à les opposer l'un à l'autre, Achille serait le sentimental, alors que Ulysse serait finalement plus terre à terre, c'est l'homme de la ruse.
Oui. Alors je ne sais pas si j'aurais employé le terme sentimental pour Achille, mais enfin c'est quelqu'un qui est du côté des passions.
C'est ça, des passions.
Oui, tout d'une pièce qui réagit parfois peut-être sans vraiment réfléchir, alors qu'effectivement avec Ulysse on a un personnage qui est très calculateur, qui réfléchit toujours avant d'agir. On le voit même dans l'Odyssée, dans l'épisode de la rencontre avec Nausicaa, où il y a en fait une séquence de délibération intérieure où il se demande en fait comment est-ce qu'il faut qu'il se comporte avant de lui adresser la parole. Ce qui est quand même extraordinaire.
À la fin, est heureux. C'est Ulysse qui est heureux, c'est pas Achille. Est-ce que ça signifie quelque chose pour Homère, d'une certaine manière, le destin tragique d'Achille par rapport au destin plus heureux tout de même d'Ulysse?
Alors bon, Ulysse est heureux à la fin parce que son histoire se termine bien.
Voilà.
Encore que, bon, enfin vous savez que dans l'Odyssée, bon, le texte annonce quand même un nouveau départ et de nouvelles aventures. Mmh. Donc c'est une fin heureuse, mais quand même avec quelques inquiétudes qui pèsent sur la suite. Enfin, en même temps, dans toute la durée de l'Odyssée, on peut pas dire qu'il soit présenté comme un personnage heureux. Au contraire, c'est plutôt la figure de l'affligé.
Non, mais c'est l'idée qu'il faut traverser des épreuves
pour
finalement retourner chez soi.
Oui, les surmonter. Ce que peut-être Achille n'est pas capable de faire parce qu'il est trop il est trop monolithique.
Alors les plus grands ont donc repris, les plus grands littérateurs ont donc repris cette figure de Ulysse. Dante a donc fait revivre Ulysse dans la Divine Comédie. Shakespeare s'en est inspiré aussi, même Cervantes et jusqu'à Goethe. Qu'est-ce qui explique finalement pour vous que tous ces grands écrivains et dramaturges est épuisé dans ce personnage d'Ulysse et pas dans celui d'Achille ou moins dans celui d'Achille.
Mais je pense que c'est précisément cette épithète qui lui est attribuée dès le tout début de l'Odyssée, l'épithète de Polutropos, qui veut dire aux mille ruses, enfin, ou aux mille tours. Bon, c'est un terme, en fait, dont la signification est assez ambiguë, mais qui suggère bien les multiples replis du personnage. Donc, c'est quelqu'un qui est très ambivalent. Et évidemment, c'est plus commode de réécrire à partir d'un personnage qui a de multiples facettes qu'à partir d'un personnage qui est monotrope comme Achille. Et d'autre part, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi le fait que Ulysse apparaissait dans nombre de traditions parallèles avec aussi une physionomie très différente. Et bah, par exemple, c'est vrai que l'Ulysse de Shakespeare, il n'est pas inspiré d'Homère, hein, il est inspiré des traditions parallèles.
Donc il est devenu, au-delà du personnage d'Homère, une figure universelle.
Oui, oui. Alors le mot par lequel commence l'Odyssée, c'est justement Andra, homme. C'est vraiment l'incipit du poème. Et donc ça, effectivement, ça a pu contribuer à cette dimension universelle du personnage. Bon, Ulysse, c'est un peu le symbole de tout un chacun, enfin, de personne ou de tout le monde. Ce qu'on voit bien chez Joyce, d'ailleurs.
C'est aussi un grand narrateur. Ulysse, c'est peut-être d'ailleurs plus un romancier qu'un poète. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça ? Achille serait davantage le poète et Ulysse serait davantage le romancier, ce qui pourrait expliquer que d'une certaine façon, les romanciers et les dramaturges se soient davantage intéressés à Ulysse. Ça vous semble une hypothèse juste ?
Oui, tout à fait. Parce que, effectivement, dans l'Iliade, Achille est mis en scène en train de jouer de la lyre et de chanter. Bon, Ulysse, lui, raconte ses aventures. Enfin, c'est lui le narrateur secondaire et toute la partie centrale des récits chez Alcinoos, avec les épisodes les plus fabuleux des sirènes, du cyclope, etc., sont effectivement pris en charge par Ulysse lui-même.
Ah bah écoutons justement l'épisode des sirènes dans la voix de Guillaume Gallienne.
Son premier conseil est de fuir les sirènes, leur voix ensorcelante et leurs prairies en fleurs. Seul, je puis les entendre. Mais il faut que, chargé de robustes liens, je demeure immobile, debout sur l'emplâture, serré contre le mât, et si je vous priais, si je vous commandais de desserrer les nœuds, donnez un tour de plus. Je dis, et j'achevais de prévenir mes gens, tandis qu'en pleine course, le solide navire que poussait le bon vent s'approchait des sirènes. Soudain, la brise tombe. Un calme sans haleine s'établit sur les flots qu'un dieu vient endormir. Mes gens se sont levés dans le creux du navire, ils amènent la voile et s'asseyant aux rames, ils font blanchir le flot sous la pale en sapin. Alors de mon poignard en bronze, je divise un grand gâteau de cire. À pleine main, j'écrase et pétris les morceaux. La cire est bientôt molle entre mes doigts puissants. De banc en banc, je vais leur boucher les oreilles. Dans le navire, alors, ils me lient bras et jambes et me fixent au mât, debout sur l'emplanture. Puis chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Nous passons en vitesse. Mais les sirènes voient ce rapide navire qui bondit tout près d'elles. Soudain, leur fraîche voix entonne un cantique.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Corinne Joanneau, cet épisode des sirènes, comment a-t-il inspiré après lui ? Comment a-t-il été repris par d'autres littérateurs ?
Alors c'est un épisode qui est important, qui a été interprété beaucoup de manière symbolique. Les sirènes donc sont censées représenter diverses tentations. Alors dans l'Antiquité, elles ont souvent été assimilées en fait à des figures de prostituées. Et enfin, on le voit par exemple dans le domaine iconographique sur les vases grecs. Il y a souvent des images de cet épisode d'Ulysse et des sirènes. Et on voit qu'effectivement, les sirènes sont représentées comme des femmes extrêmement parées. Donc elles ressemblent à des courtisanes. Donc sirènes associées à la tentation du plaisir. Donc, Donc ça pour l'Antiquité. Mais alors il y a une autre interprétation qui émerge aussi, qu'on trouve déjà chez Cicéron et qui sera reprise ensuite au Moyen-Âge. C'est l'assimilation des sirènes à la tentation du savoir. Parce que le chant qu'elles adressent à Ulysse, elles lui promettent effectivement la connaissance de tout ce qui a eu lieu et de tout ce qui sera. Et donc c'est pour ça que Cicéron déjà dit que les sirènes représentent la tentation de la connaissance. Alors dans l'Antiquité, tentation de la connaissance, bon, c'était quelque chose de positif, mais lorsqu'on passe évidemment au domaine chrétien et lorsqu'on relit l'épisode après l'histoire de la Genèse et l'éviction d'Adam et Ève du paradis parce qu'ils ont mangé le fruit défendu de l'arbre de la connaissance, bon, évidemment, cette tentation de la connaissance prend une toute autre dimension.
Chez les chrétiens, les sirènes, c'est Satan? C'est comme ça qu'on a vu finalement cet épisode?
Oui, ça devient complètement transgressif, effectivement.
Mmh. Alors, revenons justement au tragique. Beaucoup des poètes et dramaturges de l'Antiquité ont repris d'une manière ou d'une autre ce personnage d'Ulysse qui, à chaque fois, prend des couleurs un petit peu différentes. Chez Sophocle, par exemple, un jour, dans Ajax, il est un personnage positif. Et puis, le lendemain, dans Philoctète, c'est un personnage plus négatif. Comment est-ce que vous analysez, finalement, cette plasticité d'Ulysse chez Sophocle?
Alors d'abord, il y a une question de décalage chronologique, parce qu'il y a un écart vraiment important entre ces deux pièces, entre l'Ajax et le Philoctète, qui date vraiment de la fin de la carrière de Sophocle. Et la situation politique à Athènes a considérablement évolué. Et c'est détérioré, la démocratie à l'époque où Sophocle écrit le Philoctète est vraiment tombée aux mains des démagogues. Et le problème pour Ulysse, c'est que à cette époque-là, il s'est trouvé en fait associé à la figure du démagogue. D'où l'image extrêmement sombre du personnage qui est donné dans le Philoctète. Alors que dans l'Ajax, donc qui a été mis en scène une trentaine d'années plus tôt, bon, effectivement, Ulysse a la figure de l'homme politique. Il agit au nom de la raison d'État, donc il paraît pas forcément tout à fait sympathique au début de la pièce, mais après, comme il prend parti quand même pour Ajax, il veut que les Atrides accordent les honneurs de la sépulture à Ajax après son décès, il finit par jouer le rôle de l'adjuvant dans la fin de la pièce.
Il y a aussi chez Euripide un Ulysse qu'on peut qualifier là de perfide.
Oui. Alors effectivement, dans les tragédies d'Euripide, l'image d'Ulysse est extrêmement dégradée. Mmh. Il apparaît comme perfide, beau parleur, mais justement beau parleur démagogue, donc qui flatte le peuple. C'est lui qui va pousser au meurtre d'Iphigénie, à l'assassinat d'Astyanax, de Polyxène. Donc il a vraiment le mauvais rôle, en fait, dans les tragédies d'Euripide.
Oui. Alors ça, c'est du côté des tragédies, mais il peut être aussi présent dans la comédie. Et je reprends ce mot de plasticité, là, quand même. On a l'impression qu'on peut faire tout avec Ulysse.
Oui. Alors, effectivement, Ulysse est présent aussi dans la comédie, alors surtout dans des fragments, malheureusement, donc évidemment ça nous empêche un petit peu de nous faire une image globale du personnage. Et là, pour le coup, on peut penser que les auteurs comiques ont quand même surtout puisé aux matériaux de l'Odyssée et à ce qui était en quelque sorte l'emblème du personnage, à savoir le gastère, le ventre. Puisque, donc vous le disiez tout à l'heure, Ulysse est présenté comme un personnage très prosaïque, qui a le sens des réalités, et en particulier qui évoque à plusieurs reprises, de façon récurrente, les nécessités du ventre. Il faut manger, donc obéir à ce chien de Gaster. Et donc ce motif-là a été repris dans la comédie et tourné évidemment en dérision. Donc on a un personnage qui devient un personnage de goinfre, un peu comme Héraclès.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons des multiples métamorphoses d'Ulysse dans la littérature qui a suivi Homère. Avec vous, Corinne Joanneau, on peut avancer encore un peu dans le temps. Vous pouvez peut-être évoquer pour nous Fénelon. Alors là, c'est un bond très important à travers les siècles, à moins qu'il n'y ait des passages importants à signaler entre les tragiques et puis le 18e.
Mais je pense que le texte de Fénelon est vraiment un texte important dans la réception de la figure d'Ulysse, parce que c'est une espèce de continuation de l'Odyssée, alors qui en fait met en scène non pas Ulysse, mais Télémaque, le fils d'Ulysse, sauf que l'ombre d'Ulysse plane vraiment dans tout ce roman, l'ombre du père en réalité, qui est absent. Donc Télémaque s'est lancé à sa recherche, il essaie de lui ressembler. Enfin, d'ailleurs, Mentor, qui l'accompagne, le presse de façon constante d'être aussi vertueux, d'avoir toutes les vertus de son père. Et oui, alors c'est un texte important parce que c'est un texte qui ensuite a servi de base à des parodies qui exploitaient à la fois l'Odyssée et donc le texte de Fénelon.
Mmh. Vous dites que les aventures de Télémaque, c'est une réécriture d'Homère à l'usage du prince. Qu'est-ce que ça signifie, ça ?
Oui, parce que, en fait, c'est un texte que Fénelon a écrit à l'intention du duc de Bourgogne. C'est un texte qui a effectivement un dessin moralisateur. Télémaque, c'est un roman d'initiation, en quelque sorte. Et Télémaque va apprendre en fait son métier de prince. Mmh. Et à travers lui, évidemment, c'est un exemple qui est donné aussi au duc de Bourgogne.
Mmh. Qu'est-ce que ça signifie que ce soit un roman d'initiation ? Ça veut dire que Ulysse, finalement, c'est une figure de celui qui grandit, qui traverse, encore une fois, un certain nombre d'épreuves pour devenir la personne qu'il doit devenir. Enfin, on va le lire comme ça.
Oui, alors je pense que c'est valable aussi pour Télémaque, parce que l'Odyssée, évidemment, c'est l'histoire d'Ulysse, mais c'est aussi une histoire de Télémaque. D'ailleurs, les quatre premiers chants mettent en scène le fils d'Ulysse, mm-hmm. et non pas Ulysse lui-même, qui apparaît seulement au chant 5, et Télémaque est à la recherche de son père. Mm-hmm. Et donc il y a cette quête du père qui va se poursuivre jusqu'à quasiment la fin du poème, et qui est importante parce qu'on voit que le personnage, qui n'est pas sûr en fait de son identité au début de l'Odyssée, va petit à petit prendre confiance en lui-même. Et il retrouve son père donc dans la dernière partie du roman, dans les champs du retour, et Ulysse ensuite lui sert de modèle. Et donc ce roman d'initiation qui était déjà présent en fait dans l'Odyssée, il a été, si vous voulez, développé par quelqu'un comme Fénelon.
Et aussi par quelqu'un comme Marivaux, qui propose un Télémaque travesti. Donc c'est Télémaque, à un moment donné, qui va intéresser davantage les dramaturges à cette époque-là.
Oui, oui. Alors, la figure d'Ulysse est toujours là, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à titre de modèle. Alors évidemment, dans le cas de Marivaux, il s'agit d'une œuvre burlesque. Hein. Mmh. Donc Marivaux, en fait, a repris très précisément la trame du texte de Fénelon. Et donc, il transpose toute l'histoire du Télémaque, mais sur le mode prosaïque.
On va en écouter un extrait.
Un beau matin, je me trouvais sans un sol. Comme j'avais besoin d'un prompt secours et qu'il n'y avait pas de temps à perdre, un de mes amis que je rencontrais me proposa de me mener chez un honnête particulier qui était marié et qui passait sa vie à étudier des langues mortes. Ça me convenait assez, car j'ai de l'étude. Je restais donc chez lui. Là, je n'entendis parler que de science. Et J'ai remarqué que mon maître était épris de passion pour certains quidam qu'il appelait des anciens, et qu'il avait une souveraine antipathie pour d'autres qu'il appelait des modernes. Je me fis expliquer tout ça.
Et qu'est-ce que c'est, les anciens et les modernes?
Les anciens? Attends. Il y en a un dont je sais le nom et qui est le capitaine de la bande. C'est comme qui dirait un Homère. Connais-tu ça?
Non.
C'est dommage, car c'était un homme qui parlait bien grec.
Il n'était donc pas français, cet homme-là?
Ah, que non! Je pense qu'il était de Québec, quelque part dans cette Égypte, et qui vivait du temps du déluge. Nous avons encore de lui de fort belles satires. Et mon maître l'aimait beaucoup, lui, et tous les honnêtes gens de son temps, comme Virgile, Néron, Plutarque, Ulysse et Diogène.
Alors avec Marivaux, Corinne Joanneau et cet extrait de La Fosse Suivante, en l'occurrence, on a interprété là par les sociétaires de la Comédie Française, on retrouve au fond les aventures fénéloniennes, mais transposées dans un registre réaliste, dans un registre bas, dans un registre humoristique, avec par exemple le rôle de Calypso qui est tenu par une grosse dame âgée de 40 ans qui avait été fort belle, nous dit-on. Donc il y a de la moquerie finalement, un changement de registre à partir d'un même thème, une variation autour d'un même thème.
Oui, alors ce qu'on voyait bien à partir de l'extrait qui vient de nous être lu, c'est l'arrière-plan culturel de tout ce texte, à savoir la querelle des anciens et des modernes, et c'est important pour bien percevoir le sens, en fait, la finalité de l'œuvre, de la réécriture de Marivaux. Alors Marivaux lui-même se situait dans le camp des modernes, et donc lorsqu'il s'attaque, lorsqu'il parodie à la fois Fénelon et à travers Fénelon Homère, il s'en prend effectivement à des textes qui étaient les modèles par excellence des anciens, de ceux qui étaient des fervents admirateurs du passé, du classicisme.
Je crois que dans le Télémaque travesti, il y a un pastiche de l'épisode des adieux d'Ulysse à Pénélope. Je ne sais pas si vous avez ça en tête.
Oui, ouais. Oui.
C'est un passage
qui est très mystérieux. Alors, dans l'Odyssée, ça figure au chant 18, dans un discours que Pénélope adresse aux prétendants. Mmh. Et elle leur rappelle cette scène d'adieu dont on ne sait pas trop si en réalité ça n'est pas elle qui l'a complètement inventée, parce que il est possible qu'elle soit aussi menteuse qu'Ulysse. Donc, et elle rappelle aux prétendants qu'Ulysse lui aurait dit au moment du départ, l'aurait invité à se remarier s'il n'était pas rentré le jour où Télémaque atteindrait l'âge adulte. Et donc elle dit ceci aux prétendants. En fait, pour leur faire croire qu'elle est prête désormais à épouser l'un d'entre eux et pour obtenir des présents de leur part. Donc c'est une note en fait qui est assez brève dans le texte de l'Odyssée, mais qui a été amplifiée, ensuite réécrite par Fénelon et ensuite par Marivaux. Alors, chez Fénelon, ce discours d'adieu d'Ulysse à Pénélope, il prend un côté un petit peu inquiétant parce que Ulysse aurait formulé une espèce d'anathème conditionnel à l'encontre de Télémaque en le maudissant pour le cas où, en fait, il ne serait pas devenu suffisamment vertueux, où il aurait failli à sa tâche de prince et de futur roi.
On pourrait parler aussi très vite avant la chronique de Nathalie Frolov d'Aragon. Alors, un nouveau saut dans le temps. Les aventures de Télémaque, c'est un ouvrage qu'Aragon qualifie lui-même de croisement de Fénelon et alors de Dada cette fois-ci, Corinne Joanneau.
Alors, Fénelon, parce que, comme il le raconte lui-même, il a été nourri par ce texte-là. En fait, il a appris à lire avec le Fénelon de Télémaque. Donc, pour lui, c'était vraiment un texte fondateur. Et donc, il s'est essayé, lui aussi, à le réécrire. Mais, effectivement, en le modernisant considérablement, en introduisant dans son texte des fragments de discours dadaïstes.
Plus dada encore, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais plus étonnant peut-être, il y a ce Ulysse héros de science-fiction qu'on connaît tous, qu'on a tous vu quand on était enfant dans le manga franco-japonais qui passait à la télévision au début des années 80, qui s'appelait Ulysse 31. Vous le mettez dans votre corpus aussi,
oui.
Des réappropriations du personnage d'Ulysse.
Oui, alors ce qui m'avait amusé en fait, en visionnant un certain nombre des épisodes, c'est le côté finalement très moralisateur de cette réécriture à destination des enfants. Alors évidemment, il y a beaucoup d'aventures, de combats, enfin avec des armes laser, mais par-delà cet élément, on constate que Ulysse est vraiment présenté comme un exemple aux enfants. Et alors, pour le coup, c'est un personnage qui devient très éloigné de l'Ulysse homérique, parce que ce qui était la caractéristique quand même principale du personnage, à savoir la ruse, disparaît totalement. On a un personnage qui est franc comme du bon pain, qui ne ment jamais. Donc, vous voyez, on est complètement aux antipodes de l'Ulysse originel.
Allez, on va continuer de parler des divers avatars d'Ulysse dans la littérature, mais plutôt en deuxième partie dans celle du XXe siècle, juste après la chronique du jeudi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
La chronique du jeudi au cours de laquelle une grande lectrice ou un grand lecteur vient nous donner son avis subjectif sur le sujet de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois dans cet exercice Nathalie Frolov. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous enseignez en classe préparatoire, vous êtes spécialiste de littérature contemporaine, vous êtes venu ici nous parler notamment de Valérie Larbaud et d'Emmanuel Carrère, et aujourd'hui, eh bien, vous venez nous parler de réécriture du personnage, non pas d'Ulysse, mais pour commencer de Pénélope, je crois.
Oui, parce qu'effectivement, on est en train de l'entendre, Ulysse a permis de nombreuses réécritures, ce qui n'est pas le cas effectivement de Pénélope, me semble-t-il. Pénélope reste un peu, je dirais, dans la représentation qu'on a donnée à Agamemnon dans la seconde Nécua, où en fait, elle est cette femme, cette épouse fidèle, absolument parfaite, l'incarnation même de la fidélité. Forcément, Agamemnon l'oppose à sa propre femme, Clytemnestre. Donc, une femme, je dirais, dont le cléos, la gloire, est justement d'être restée dans la mémoire de tous, comme celle, justement, qui était parfaitement fidèle. Mais cette vision, en fait, qui est cette vision qu'on a à la fin de l'Odyssée, masque peut-être des éléments un petit peu plus complexes. Effectivement, Pénélope est celle qui va tisser aussi, bien sûr, le jour, le linceul de Laërce, le père d'Ulysse, et qui la nuit va le défaire, hein, pour échapper aux prétendants. Mais elle va aussi instaurer donc le concours qui va finalement mener à la vengeance d'Ulysse. Donc ce personnage-là finalement est sans doute plus complexe, et c'est Suzanne Saïd qui, je trouve, a une jolie formule. Elle dit que finalement Pénélope, ce serait comme une espèce de test de Rorschach. On aurait du mal finalement à interpréter quel rôle elle joue. Alors, il y a une espèce d'ambivalence en fait du personnage qu'on a pu voir dans le célèbre monologue de Molly Bloom dans Ulysses, qui montre par le stream of consciousness, le flot de conscience, justement cette complexité à l'œuvre en redonnant une voix à Pénélope. Mais il me semble, en tout cas pour moi, que la réécriture la plus saisissante du personnage, c'est dans l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood.
Margaret Atwood qui a écrit entre autres La Servante écarlate, qu'elle a d'ailleurs adaptée en série avec Bruce Müller.
Oui, elle a participé en plus, non seulement effectivement la première saison et l'adaptation véritable effectivement de The Handmaid's Tale, mais les saisons qui suivent, en tout cas la troisième paraît-il est en cours de tournage, elle participe vraiment à cette écriture-là, ce qui est très intéressant je trouve, et on connaît ces ces textes féministes, mais complexes aussi, je trouve, de Margaret Atwood. Alors, dans l'Odyssée de Pénélope, on voit déjà par le titre qu'elle cherche à redonner une voix à Pénélope. Et ce n'est pas seulement Pénélope qui va parler, parce que le livre, en fait, alterne des chapitres où c'est Pénélope qui s'exprime depuis le royaume des morts. Et en fait, un cœur de femme, celui des 12 servantes qui ont été pendues, en fait, à la fin de l'Odyssée. Servantes qui ont donc été aussi l'objet de la vengeance d'Ulysse. Au champ 22. Donc Pénélope, voilà, parle. Alors même qu'elle est morte, c'est une sorte de voix d'outre-tombe, donc une troisième Nécuia, on pourrait dire. Et ici, elle essaie de rendre compte de tout ce qu'elle a appris, justement, en arrivant au royaume des morts, au royaume des ombres. Bon, alors on apprend par exemple que Hélène a toujours été sa rivale, parce qu'Hélène a toujours été extrêmement belle, et même Ulysse aurait préféré épouser Hélène. Pénélope est une sorte de second choix où elle-même est comparée à un morceau de viande donné à Ulysse, un morceau de viande, et où elle plaisante sur le fait que les Grecs, et on le voit très bien dans l'Odyssée, passaient leur temps dans des banquets à manger de la viande. Elle plaisante sur le fait qu'ils n'avaient pas rencontré de légumes, c'était un petit peu ça. Donc sur des petites touches d'ironie, il y a vraiment beaucoup d'ironie comme ça dans ce texte. Bon, donc elle est cette rivale comme ça d'Hélène. Elle subit ce mariage arrangé, bien sûr, les 20 années d'attente. Mais pour autant, Pénélope n'est pas une figure aigrie. Ce n'est pas une figure du ressentiment que nous présente Margaret Atwood. C'est plutôt une voix qui va essayer de nous révéler la vérité. Alors, il y a beaucoup d'aspects. Je me concentre sur un ou deux. Alors, elle explique bien sûr qu'elle tisse ce fameux linceul de Laërte, mais en fait, elle explique que c'est presque son propre linceul qu'elle tisse, parce que finalement, tout le monde serait bien arrangé si elle mourait. Ça serait compliqué qu'elle retourne chez son père, mais ça serait très embêtant qu'elle épouse effectivement des prétendants. Voilà, donc effectivement, ça, c'est un petit peu la difficulté. Elle ne va pas non plus sombrer dans la mélancolie. Et pour ne pas sombrer dans la mélancolie, elle va s'entourer des 12 servantes qui vont devenir ses confidentes, ses amies. Ces 12 servantes, en fait, vont être violées. Et tout l'Odyssée de Pénélope, tout ce livre va être une défense, en fait, par Pénélope des 12 servantes, en expliquant leurs gestes. Et ça se finit même par vraiment un tribunal où on met en accusation Ulysse. Donc c'est un livre très très étonnant qui montre qu'en fait cette histoire du tissage et tisser la toile, la défaire, et ça c'est contenu même dans le nom de Pénélope. En fait, tisser la toile, c'est le propre de la métisse, c'est le propre de la ruse. Défaire la toile, en fait, c'est penser, c'est réfléchir, c'est philosopher, c'est en fait risquer, s'exercer à la mort en quelque sorte, parce qu'elle risque d'être découverte. Donc on voit ici une ambivalence du personnage que Margaret Atwood met très bien en valeur grâce à cette voix d'outre-tombe.
Merci beaucoup Nathalie Frolov, j'imagine que vous étudiez tout cela aussi avec vos étudiants, avec vos élèves.
Nous avons étudié justement l'Odyssée l'an dernier.
Ah ben voilà, ils ont de la chance. Merci, à très bientôt Nathalie Frolov. De la Compagnie des auteurs sur France Culture. Au dernier jour de notre série consacrée à Homère, nous sommes en compagnie de Corinne Joanneau, auteure de l'essai Ulysse, Odyssée d'un personnage d'Homère à Joyce. Et après avoir vu comment les littérateurs avaient repris la figure de ce personnage dans leurs œuvres jusqu'au XXe siècle, et bien voilà que nous avançons encore dans le temps, avec maintenant la pièce de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu.
À vos ordres, Ulysse.
À vos ordres.
Et voilà le vrai combat, Ulysse.
Le combat d'où sortira ne sortira pas la guerre, oui.
Elle en sortira ?
Nous allons le savoir dans 5 minutes.
Si c'est un combat de paroles, mes chances sont faibles.
Je crois que cela sera plutôt une pesée. Nous avons vraiment l'air d'être chacun sur le plateau d'une balance. Le poids parlera.
Mon poids ? Ce que je pèse, Ulysse. Je pèse un homme jeune, une femme jeune, un enfant à naître. Je pèse la joie de vivre, la confiance de vivre, l'élan vers ce qui est juste et naturel.
Je pèse l'homme adulte, la femme de 30 ans, le fils que je mesure chaque mois avec des encoches contre le chambranle du palais. Mon beau-père prétend que j'abîme la menuiserie. Je pèse la volupté de vivre et la méfiance de la vie.
Je pèse la chasse, le courage, la fidélité, l'amour.
Je pèse la circonspection devant les dieux, les hommes et les choses.
Je pèse le chêne phrygien, Tous les chênes phrygiens, feuillus et trapus, épars sur nos collines avec nos bœufs frisés.
Je pèse l'olivier.
Je pèse le faucon, je regarde le soleil en face.
Je pèse la chouette.
Je pèse tout un peuple de paysans débonnaires, d'artisans laborieux, de milliers de charrues, de métiers à tisser, de forges et d'enclumes. Oh, pourquoi devant vous ces poids me paraissent-ils tout à coup si légers?
Extrait de La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux dans un enregistrement avec Louis Jouvet qui date de 1935. Qu'est-ce que vous en retenez, Corinne Joanneau?
Alors, d'abord, peut-être on peut préciser que la pièce de Giraudoux, c'est une réécriture du passage qui a été lu tout au début de l'émission, ce passage du chant 3 où Anténor évoquait l'ambassade d'Ulysse et de Ménélas à Troie avant donc le déclenchement de la guerre. Sauf que chez Giraudoux, Ménélas a été complètement occulté et c'est Ulysse qui joue le rôle d'unique ambassadeur. Alors oui, c'est évidemment une pièce qui se situe dans un contexte compliqué, puisque on est dans les années 30. Oui, voilà, évidemment. Donc cette guerre, entre Troie et les Grecs, dont il est question dans la pièce. Bon, évidemment, dans l'esprit des spectateurs ou des lecteurs de l'époque, c'était aussi la guerre potentielle entre la France et l'Allemagne.
Oui. Mais Giraudoux d'ailleurs n'a pas été forcément très clairvoyant, puisque il s'est engagé en 39 au commissariat de l'information. Il était un petit peu pétainiste et du coup sans doute qu'il n'a pas tiré lui-même toutes les conséquences qu'il aurait pu tirer.
Mais donc il était moins clairvoyant que son Ulysse.
Moins clairvoyant que son Ulysse, oui.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous de cette pièce-là dans la perspective qui est la vôtre?
Alors, dans le passage qui a été lu à l'instant, donc cette pesée qui met face à face Hector et Ulysse, ce qu'on voit bien, c'est en fait la supériorité d'Ulysse au sens intellectuel du terme, parce que on s'aperçoit que Hector met dans les plateaux de la balance uniquement des choses qui sont lourdes matériellement. Ouais. On a l'impression qu'il est incapable en fait de manier le sens figuré. Enfin, il est présenté de manière extrêmement sympathique, mais très jeune aussi. De l'autre côté, il y a un Ulysse sur qui pèse déjà le poids des années et qui est capable aussi effectivement de lui de manier le sens figuré, de mettre des qualités lourdes dans ces plateaux de la balance.
Donc on retrouve dans toutes ces adaptations de ce personnage un fond quand même qui est commun, des caractéristiques communes de cet Ulysse.
Oui, il y a le côté homme politique qui était très présent dans les adaptations théâtrales antiques, enfin chez Sophocle ou Euripide, et qui reparaît effectivement, alors aussi bien dans les tragédies du XVIIe siècle, Rotrou ou Racine, que ici au XXe chez Giraudoux.
Oui, et même peut-être chez Dante et Shakespeare, il y avait déjà ce côté rhéteur et ce côté politique.
Oui, alors Dante, c'est quand même un petit peu différent parce qu'évidemment, il y a l'image du voyageur, enfin, et cette histoire de seconde odyssée, enfin, de nouveau départ sans retour pour le coup. Alors ça, ça ouvre des perspectives complètement nouvelles.
Oui. Alors vous rappelez aussi que Giraudoux a aussi mis en scène Ulysse dans 4 nouvelles, les nouvelles d'Elpenor, où là, Ulysse est présenté plutôt comme un beau parleur, c'est ça, Corinne Joanneau?
Oui, oui, oui. Donc c'est la dimension éloquence du personnage qui est reprise par Giraudoux, mais qui en même temps est un peu tournée en dérision. Par exemple, lorsqu'il prononce l'oraison funèbre du malheureux Elpenor, en fait, il enchaîne vraiment tous les clichés, tous les topoi. Donc c'est quelqu'un qui parle la langue de bois.
Oui. Donc il y a une volonté là aussi de transposer l'épique sur un mode humoristique.
Oui. Et la petite dimension des pièces contribue aussi à cette tonalité humoristique. Enfin, le fait même de la miniaturisation, pardon, contribue en fait au comique.
Oui. Alors au XXe siècle, les Grecs eux-mêmes ont eu envie de continuer l'Odyssée d'Homère. C'est d'ailleurs bien normal qu'ils aient eu cette tentation-là, les écrivains grecs du XXe siècle.
Oui, alors évidemment, il y a l'Odyssée de Kazantzaki, qui, comme son titre l'indique, oui, c'est une réécriture et une suite, enfin inversée d'ailleurs, puisque pour le coup, l'Ulysse de Kazantzaki, qui se situe dans la lignée de l'Ulysse de Dante, repart d'Ithaque pour ne plus jamais rentrer. Mmh. Et alors, enfin, c'est un personnage qui est tout à fait intéressant. Bon, il se trouve que Kazantzaki est un auteur qui a vraiment été nourri de philosophie nietzschéenne. Donc, il a présenté son héros vraiment comme une espèce d'avatar du surhomme nietzschéen qui méprise ce qu'il appelle les rapetissantes vertus, les habitudes sclérosantes, etc. Mmh. Et donc, qui ne rêve à peine rentrer que de nouveaux départs et de nouvelles aventures.
Mais oui, parce que les retrouvailles d'Ulysse et de Pénélope ne sont pas là l'aboutissement heureux de 20 années d'épreuves, mais la confrontation finalement d'un héros avec une réalité qui est très décevante, et notamment cette Pénélope qui est une vieille femme complètement affaissée, qui ne fait pas du tout envie en réalité à Ulysse. Hein.
Oui, effectivement, les retrouvailles se passent très mal. Mais ça, je dirais que c'est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de réécritures de l'Odyssée. Il y a beaucoup d'auteurs modernes, contemporains, qui ont réfléchi sur cette question du retour au même, en fait, enfin, au même, justement, le problème, c'est que, est-ce que c'est toujours le même après 20 ans d'absence, et en particulier pour ce qui concerne le couple héroïque, est-ce que c'est possible, comme le prétend l'Odyssée, de se retrouver? Est-ce que le couple peut se ressouder après si longtemps? Alors, dans l'Odyssée, on s'aperçoit que ça n'est pas si facile, qu'effectivement, quand Ulysse débarque à Ithaque, d'abord, il commence par ne pas reconnaître son île, et puis que même avec Pénélope, bon, il y a une méfiance de la part de Pénélope qui est considérable, mais au bout du compte, le dénouement est positif. Il y a des obstacles, mais des obstacles qui finissent par être levés, et une espèce de beau mensonge romanesque. Et j'ai vraiment eu le sentiment que beaucoup d'auteurs contemporains, en fait, essayait de saper en fait ce mensonge romanesque et de montrer que bon, c'était totalement impossible d'imaginer ces retrouvailles heureuses
parce qu'on a changé du 20e siècle, aussi. C'est une vision plus réaliste entre guillemets.
Oui, peut-être ce qui est pris en compte aussi, qu'il était beaucoup moins dans l'Odyssée, c'est la question de la temporalité et du changement qu'apporte à l'individu le passage des ans. Donc évidemment, quand Ulysse rentre à Ithaque après 20 ans, il n'est plus le même. Et on peut dire la même chose évidemment pour Pénélope. Mmh. D'où le fait qu'il n'arrive pas à se retrouver. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez quantité d'adaptations modernes.
Alors on ne peut pas citer évidemment tous les poètes, tous les romanciers qui vont s'inspirer d'Ulysse, mais il y a tout de même un grand critique comme Maurice Blanchot qui en faisait significativement dans les années 30-40, l'image du livre à venir, quand il transformait la navigation d'Ulysse en figure du récit. Et le livre le plus emblématique de cela, c'est sans doute l'Ulysse de Joyce, dont je vous propose d'écouter un extrait tout de suite, lu par Georges Kless.
Tournant le dos au soleil, Stephen s'allongea de tout son long pour griffonner quelques mots. Ça fait deux fois que j'oublie de prendre les fiches sur la banque de la bibliothèque. Son ombre s'allongeait sur les rochers tandis que lui se courbait, en finissait. Pourquoi pas infini courant jusqu'à l'astre le plus reculé. Ténébreux, il guette derrière cette lumière, ténèbres brillant dans la clarté, delta de Cassiopée, monde. Moi, être assis là, avec de l'augure sa baguette de frêne, en sandales empruntées, de jour au bord d'une mer livide, passant inaperçu, parcourant la nuit violette sous l'enseigne d'astres mal dégrossis. Je rejette cette ombre finie, inéluctable modalité de la forme humaine, la rappelle. Infinie, serait-elle mienne, forme de ma forme? Qui m'observe ici? Qui donc lira un jour ces mots écrits, signes posés sur un blanc champ, un jour à quelqu'un de ta voix la plus mélodieuse?
Sur France Culture. Alors ce livre, il s'appelle Ulysse, mais au fond, pourquoi s'appelle-t-il Ulysse? Ce n'est pas du tout évident. La comparaison entre l'Ulysse de Homère et cet Ulysse de Joyce.
Oui, à première lecture, on peut avoir le sentiment que l'écart est énorme entre le roman de Joyce et l'Odyssée d'Homère.
Il n'y a pas de voyage déjà pour commencer.
Il n'y a pas de voyage, effectivement. Bon, les personnages portent des noms différents, ont des relations les uns avec les autres qui sont différentes. Mais alors évidemment, le titre est une incitation de Joyce à lire ce texte comparaison avec l'Odyssée. Et il avait laissé lui-même des schémas dans lesquels il associait chacun des 18 chapitres de son roman à un épisode de l'Odyssée. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des liens tout à fait étroits. Alors là, pour prendre l'exemple du passage qui a été lu, donc le personnage dont il était question, c'est le jeune Stéphane Dédalus, qui va jouer le rôle de Télémaque. Et ce qu'on retrouve à travers le passage qui a été lu, c'est précisément le motif dont nous parlions tout à l'heure de la quête identitaire. Alors, en réalité, Stéphane, il a un père, donc de ce point de vue-là, il est différent, enfin, de Télémaque. Enfin, il a un père qui est à côté de lui, je veux dire, il n'est pas en quête de son père disparu. Mais par contre, il est à la recherche d'un père spirituel. Et il ne sait pas très bien qui il est. Enfin, il est à la recherche de lui-même. Donc on voit qu'il y a un lien thématique.
Et Pénélope, elle existe aussi sous la forme de Molly Bloom, ou alors c'est un peu abusif de dire cela?
Non, c'est bien quand même une Pénélope. Enfin, à vrai dire, il y a des associations multiples, parce que quand elle entre en scène dans le chapitre 4, elle est associée à la nymphe Calypso. Et puis après, on va s'apercevoir que, bon, en réalité, l'association majeure, c'est l'association avec Pénélope. Mais pour le coup, ça n'est pas la Pénélope fidèle de l'Odyssée. C'est une Pénélope qui trompe son époux. Mais il y avait déjà, en fait, dans l'Antiquité, des traditions parallèle qui faisait de Pénélope une épouse infidèle, et même, enfin, non seulement simplement infidèle, mais elle aurait trompé Ulysse avec la totalité des prétendants et donné naissance à Pan, qui veut dire tout. Et c'est un motif, ce motif de l'infidélité de Pénélope, qu'on retrouve dans un certain nombre de textes antiques.
Pardonnez-moi,
allez-y. Non, je voulais dire tout à l'heure, on parlait de l'ambivalence de Pénélope. Bon, je crois que c'est profondément juste. Et dans l'Odyssée même, c'est vrai qu'il y a des failles. En réalité, il y a un passage en particulier lorsque Pénélope évoque un rêve qu'elle a eu, où elle a vu Ulysse sous forme d'aigle massacrer les prétendants, et elle se voit elle-même pleurant sur le sort de... Il a massacré ses prétendants qui prennent la forme d'oie, et elle pleure sur le sort de ses oies. Ce qui est quand même un peu étonnant pour une épouse fidèle, et elle présente l'aigle Ulysse sous des traits vraiment terrifiants.
Pour terminer, puisqu'il nous reste très peu de temps, sur cette idée que le Ulysse de Joyce, c'est finalement une métaphore du récit, Ulysse en figure du récit, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Corinne Joanneau? Cette idée qu'au fond, c'est une odyssée littéraire, l'Ulysse de Joyce, et que c'est ça qui compte.
Oui, alors, il y a un jeu sur centripète et centrifuge, bon, qui sont les deux images, en fait, d'Ulysse, celui qui veut rentrer à Ithaque ou celui qui veut partir, qu'on retrouve aussi au niveau de l'écriture, parce qu'il y a à la fois un jeu de mimétisme et un jeu d'ouverture à d'autres types d'écriture, et en même temps, une exploration du phénomène du monologue intérieur. Donc, vous voyez, il y a en fait des expérimentations littéraires qui sont mises en place par Joyce dans ce roman.
Oui, mais c'est le roman des romans, tout comme l'Odyssée est le roman de tous les romans à venir. Il y a quelque chose de totalisant dans ces deux œuvres-là, et on est presque dans le mythe aussi, avec, enfin dans le mythe littéraire, avec Joyce.
Oui, ça se retrouve aussi dans la mise en scène de son personnage Bloom, qui incarne à la fois tout un chacun et personne.
Mmh. Merci beaucoup, Corinne Joanneau. Et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je conseille chaleureusement votre Ulysse, Odyssée d'un personnage d'Homère à Joyce, paru en 2013 chez Ellipse. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et YouTube Diego Aclopez. Demain, vous retrouverez Manu Farine pour la Compagnie des Poètes, mais tout de suite, bah, c'est de la poésie aussi, mais cette fois avec Jacques Bonafé.
Bonjour, nous passons la semaine avec Wisława Szymborska. Quel engagement ? On en parlait l'autre jour, l'honneur des poètes, la résistance. Quel engagement ? Où est la parole ardente face à la surveillance, à l'oppression ? On choisit des thèmes latéraux. Parler, dit-elle, de ce dont on ne parle pas. Fin et début. Après chacune des guerres, il faut bien nettoyer. Un peu d'ordre dans tout ça ne se fera pas tout seul. Quelqu'un doit bien écarter les gravats qui encombrent les routes, sinon comment passeraient les charrettes pleines de cadavres? Quelqu'un devra patauger dans la fange et les cendres, les ressorts des divans, les débris de verre, les haillons sanglants. Quelqu'un doit traîner la poutre qui calera le mur. Quelqu'un doit replacer la vitre et regonder la porte. C'est pas photogénique et ça prend des années. Toutes les caméras sont déjà parties voir une autre guerre. Il faut des ponts encore et des gares à nouveau. Les manches seront en lambeaux tant on les retroussera. Petite coupe ici dans le poème. Ceux qui sont au courant du pourquoi, du comment, céderont bientôt la place à ceux qui en savent peu, puis à ceux qui en savent prou et enfin rien du tout. Dans l'herbe qui a poussé, sur les causes et sur les effets, il faut quelqu'un qui se couche, un épi entre les dents, à regarder les nuages. Voilà où est sa place. Quelqu'un qui se couche à regarder les nuages. Le dernier poème du livre, « Nous pas lire ». Pour le Proust à la librairie, te donne pas de télécommande. Pas moyen de zapper pour un match de football ou un jeu où on gagne des Volvo. Nous vivons plus longtemps mais moins scrupuleusement et en phrases beaucoup plus courtes. Nous voyageons plus vite, plus souvent et plus loin et rentrons sans souvenir mais avec carte mémoire. C'est moi avec un mec, là c'est mon ex je crois, et là tout le monde à poil, donc à la plage mais où ? 7 volumes, pitié. Y a pas ça en plus court ? Ou alors encore mieux, en image ? Y avait à la télé un truc, Marius, Fanny, mais ma belle-sœur me dit que c'est un autre Marcel P. Et d'ailleurs, entre nous, c'est qui votre Marcel ? Il a passé sa vie au lit, à gribouiller, une feuille après l'autre, à pied, clopin clopant. Et nous, en 5e vitesse, touchons du bois, bien portant. Et pour conclure, non sans lien avec nous pas lire, éloge de la mauvaise opinion de soi. Le busard n'a vraiment rien à se reprocher. Les scrupules sont étrangers à la panthère. Les piranhas ne doutent jamais de leurs actions. Le serpent à sonnette s'approuve sans réserve. Personne n'a jamais vu un chacal repenti. La sauterelle, l'alligator, la trichine et le thon vivent bien comme ils vivent et en sont très contents. Un cœur d'orque pèse bien 100 kilogrammes, mais sous tout autre aspect demeure fort léger. Non, rien de plus bestial que la conscience tranquille sur la 3e planète du Soleil. Et précisons, la traduction de Piotr Kaminski est formidable. Ça, un lecteur le sent dans sa bouche, dans ses rythmes.
Merci Jacques Bonafé pour ce dernier jour en compagnie de la poétesse Wisława Szymborska.